écoutez Radio Campus Lille, il est 8h.
Au cœur du centre-ville, je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel. Essentiel, joue. Faire ses courses à Auchan, engraisser Amazon, pendant que crèvent des honnêtes gens avec leurs mômes. Métro, boulot, dodo, ça va bien un moment. Les hommes ne sont pas des machines que l'on confine. Je suis essentiel. Je suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, on est essentiel. Allez, oui, essentiel.
Et nous sommes le premier lundi du mois, et comme tous les premiers lundis du mois, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels, un Tous Essentiels qui, en ce début juin, s'ouvre sur un épisode spécial.
Oui, une sorte de parenthèse dans notre grande exploration des versions de revenus de base, parce qu'on a quand même vécu au MFRB un moment très fort, et j'ai une bonne nouvelle pour vous.
Ah, vas-y, il va y avoir une expérimentation nationale du revenu de base,
non,
et dès la semaine prochaine...
Mais comment tu spoiles ma bonne... Non, tu spoiles pas, mais tu la gages quand même. Non, pas à ce point-là, j'avoue. Mais quand même une bonne nouvelle. Figure-toi qu'au MFRB, on s'est déjà incrusté grâce à du travail de lobbying, de l'acharnement téléphonique sur certains députés ou sénateurs. On a déjà animé un colloque au Sénat il y a quelques années grâce à Jean Desessart qui était député vert. Et puis après, en 2021, on a même animé un colloque à l'Assemblée nationale grâce à Valérie Petit qui était députée En Marche. Quoi, tu vois. Donc on s'était déjà incrusté, mais là c'était nous qui avions fait tout le travail de lobbying, etc. D'ailleurs, vous pourrez retrouver les vidéos sur notre site YouTube. Mais voilà, là cette fois-ci, c'est eux qui nous ont invités.
Wow.
Oh, la classe.
Ils ont entendu parler du revenu de base.
Mais oui, et du MFRB.
Wow.
Non, mais alors, t'imagines la photo devant l'Assemblée nationale, on était à 3 invités. Ben moi, je la garde dans mon portefeuille, quoi. Hein. J'ai même encore la petite étiquette qui permet d'entrer dans l'Assemblée nationale. Bon, bref.
Mais ils pourront plus dire qu'ils n'étaient pas au courant.
Ah oui, non, là, ils peuvent pas dire. Ils peuvent plus dire parce qu'ils nous ont invités. Donc, figure-toi que le 21 mars 2024, on est intervenu, on était trois représentants du MFRB. Donc, il y avait moi, il y avait Nadia Boualac et Guy Valette. On avait été choisis parce qu'on a des spécialités qui se complètent pour répondre aux questions de deux rapporteurs de la commission des affaires sociales. Et donc, ils ont lancé une commission pour une mission d'information sur le revenu universel d'existence. Alors pourquoi le RUE ? Je vous rappelle que c'est le nom de la version qu'a porté Benoît Hamon aux élections de 2017 et que porte encore le mouvement Génération.s qu'il a gardé, qu'il a lancé, parce que justement un des deux rapporteurs s'appelle Sébastien Pétavy et il est de Génération.s et il est député de la Dordogne. Et il s'est allié avec Annie Vidal qui est députée Renaissance de Seine-Maritime et tous les deux ils ont lancé cette mission d'information pour construire un rapport. Alors ils nous ont prévenu que ce serait sur du temps long, donc là c'était une première invitation, c'est pour ça qu'elle a pas été filmé d'ailleurs, puisque normalement on peut retrouver sur le site de l'Assemblée nationale les invités et les diverses auditions des commissions. Donc là, c'était qu'une première invitation dans le cadre d'une réflexion sur un temps très long, de plusieurs mois, et qui devra aboutir à un rapport pour constituer justement une forme de boîte à outils sur le sujet du revenu. Alors, revenu universel d'existence, on a parlé de revenu de base pour être transpartisan, pour parler de toutes les versions sans régression. Et d'ailleurs, la petite parenthèse assez rigolote, c'est que deux autres personnes étaient invitées, Baptiste Milondeau et Antonella Corsani, qu'on a reçu ici et vous trouverez les émissions parmi les podcasts de Radio Campus. Donc, on a été auditionnés, on avait évidemment préparé mot à mot toute notre présentation pour répondre à sept questions qui nous ont posées en amont. Alors, avec une orientation assez spécifique, donc c'est quoi le revenu universel ou revenu de base ? Donc là, on a présenté d'abord le MFRB, puis la définition et d'où venait un peu l'idée, sans faire un long historique. Et c'était assez orienté sur justement cette fameuse valeur travail. Tu sais, le truc dont on nous parle tout le temps et qu'on ne sait pas trop ce que c'est finalement et qu'on mélange avec l'emploi, etc. Bref. Leur questionnement, c'était alors, sur la faisabilité financière, mais aussi sur l'impact sur le travail. Est-ce que les gens arrêteraient de travailler ? C'est toujours l'angoisse absolue. Et aussi sur les expérimentations. Donc, on a répondu à trois. Donc, si ça n'a pas été filmé, on a pu quand même enregistrer nos propres interventions. Mmh. Donc c'est ce que je vous propose d'écouter aujourd'hui, la réponse à nos questions par Nadia, Guy et moi.
D'accord. Et donc il y avait beaucoup de députés ou c'était juste les deux, trois députés qui avaient motivé
En fait, très concrètement, ce jour-là, la députée Renaissance Annie Vidal ne pouvait pas être là. Donc, on a été reçu par Sébastien Pétavy. Mais il y avait, alors je n'ai pas compté exactement, mais je dirais entre 7 et 8 assistants. Mmh. Qui étaient tous derrière leurs ordinateurs et qui tapaient frénétiquement à chaque mot que l'on sortait. Mmh. Mais je ne sais pas de quel député ils étaient les assistants. Donc voilà, en tout cas, un premier niveau, un premier level, comme dans les jeux vidéo d'intérêt. Et la suite, ça sera sans doute une deuxième invitation, peut-être plus spécifique sur les sujets qui les intéresseront plus. Parce que là, ils sont en train d'écouter plein d'experts, dont un certain nombre, en tout cas, oui, non, je peux le dire, on peut s'auto-féliciter, Max, ici dans notre émission, parce que tous ceux qu'on a interviewés sont invités aussi, et ça leur a ouvert aussi des pistes. Donc voilà, pour l'instant, ils font un premier tour et la suite au prochain épisode. Donc j'espère bientôt te dire que je serai reçue à l'Élysée.
Ah, eh bien, avec plaisir. Hein, allez, allons-y. Première question. C'est quoi la première question ?
C'est quoi le revenu de base ? C'est ça.
Qu'est-ce
c'est
que vous feriez avec un revenu de base ?
Là, comme vous avez les interventions complètes, vous aurez la présentation de la question par moi-même. Moi-même par moi-même. C'est assez intéressant de se recevoir soi-même.
Alors, c'est parti.
Bonjour. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Je vais d'abord commencer par me présenter, puis je vais laisser ensuite Nadia Boualac et Guy Valette se présenter eux-mêmes et répondre à chacune de vos questions. Donc, je m'appelle Virginie Deleu, je suis maman, professeure de français et formatrice en communication non violente et justice restaurative. Je suis au MFRB depuis sa naissance en 2011 et je me suis spécialisée dans les expérimentations et l'éducation populaire en lien notamment avec le groupe local de Lille. Je vais répondre à votre première question d'abord en présentant le mouvement français pour le revenu de base, notre définition et notre charte qui ont influencé la façon de définir le revenu de base en général maintenant. Donc le mouvement français pour un revenu de base a été fondé en 2013 par plusieurs personnes qui portaient des propositions de revenu de base et qui voulaient créer un espace commun de réflexion, de partage, mais aussi d'expertise et d'action vers un objectif commun, c'est-à-dire l'instauration d'un revenu de base par la loi en France. Je précise que nous parlerons ici de revenu de base, traduction de basic income en termes génériques, plutôt que revenu universel d'existence, comme dans votre questionnement, qui évoque une version particulière, celle de Benoît Hamon, qu'il a portée à l'élection présidentielle de 2017. Car nous défendons l'idée, en général, et toutes les versions sans régression. Nous dénonçons donc toutes celles qui diminuent les ressources de ceux qui en ont le moins. Donc depuis 2013, on a constitué un véritable réseau d'économistes, de sociologues, de philosophes et de citoyens experts de leur propre vie. Et nous agissons par l'éducation populaire comme par le plaidoyer. Nous avons publié 3 livres, contribué au rapport sénatorial en 2016, participé à 2 grandes campagnes européennes avec une initiative citoyenne européenne à la clé, et on a développé des expertises en économie, en sociologie, en psychologie, tout en menant une veille sur les versions et les expérimentations, et une réflexion au fil des changements sociétaux dans la sphère familiale, le monde du travail ou le contrat social et démocratique. Donc voilà la définition qui est aujourd'hui portée par le MFRB, mais aussi qui sert de définition générique en France. Le revenu de base est un droit inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous l'enlever, même si vous êtes en prison, il n'est donc pas imposable de fait. Inconditionnel, donc on le reçoit quelles que soient nos conditions de vie, nos choix, qu'on travaille ou non, par exemple. Il est cumulable avec d'autres revenus, que ce soit des revenus du travail comme des revenus du capital. Il est distribué par une communauté politique à tous ses membres. Donc c'est là qu'on a une réflexion sur justement le périmètre de la communauté politique. Nous, on vise dans notre objet l'instauration au niveau français, mais on va soutenir des expérimentations à des niveaux plus locaux. Donc à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle et non familiale, comme par exemple beaucoup de nos allocations aujourd'hui, et sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, que ce soit du travail, que ce soit n'importe. Dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Donc on reconnaîtra toute version qui répondra à ces repères. C'est donc un outil, un revenu de base, au service de différents projets de société, de droite comme de gauche. On retrouve dans toutes ces versions les mêmes valeurs, d'abord de liberté, car les personnes ont toute autonomie dans l'utilisation de leur revenu de base. Il est donc libéral, au sens historique du terme, mais aussi d'égalité, car nous recevons tous le même matelas de sécurité. Et enfin, de fraternité, car il est décidé démocratiquement et financé par la solidarité nationale. En ce sens, il est communiste, pareil au sens premier du terme. Ce levier doit, dans notre charte, lutter contre la pauvreté de façon solidaire, faciliter l'accès à l'emploi en partageant le travail vers une transition écologique, améliorer notre protection sociale pour une société plus inclusive d'individus plus émancipés.
Quelles sont les principales spécificités de revenu universel d'existence, notamment en comparaison des revenus de solidarité qui existent d'ores et déjà en France, comme le RSA? Le RSA, comme l'ASPA, est un minima social. Il entre dans la panoplie des aides sociales qui contient plus de 50 aides non contributives différentes, ciblées, financées par l'État, qui absorbent plus de 100 milliards d'euros, soit l'équivalent du montant de l'impôt sur le revenu payé par moins de la moitié des foyers fiscaux et de ce qui reste de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Il y a, outre les minima sociaux, les aides aux familles et les aides à l'emploi. Le RSA, comme toutes ces aides, est curatif, a posteriori, conditionné, ciblé, familiarisé, et il ne s'attaque pas aux causes de la pauvreté. Par la complexité des procédures, la stigmatisation, 30% des ayants droit ne le demandent pas. De plus, par son mode de calcul, il constitue une véritable trappe à pauvreté, car avec le RSA, le travail ne paie pas. Ainsi, si un allocataire accepte un travail à mi-temps payé au SMIC, 698 euros net, son gain net sur les revenus avec la diminution des aides n'est que de 318 euros. C'est comme s'il était imposé à 55%. Si on ajoute les frais de transport, de garde d'enfants, il vaut mieux quelquefois rester chez soi. Enfin, comme toutes ces aides, il divise la société en citoyens de seconde classe, les ayants droit d'un côté et les contributeurs de l'autre. Véritable apartheid social où ceux qui réussissent s'arrogent le droit de dire aux perdants comment ils doivent dépenser le peu d'aide que l'État leur octroie. Alain Supiot, dans un article au Figaro de juillet 2022, résume parfaitement la situation. Je le cite, « En quatre décennies, on est passé d'un système de sécurité sociale fondé sur la solidarité à une protection sociale fondée sur la charité publique. » Au contraire de toutes ces aides non contributives qui assujettissent les individus, le revenu universel d'existence ou revenu de base permet de garantir individuellement et inconditionnellement à toutes et tous les droits humains universels définis par la Déclaration de 1948 et ainsi il contribue à l'émancipation des citoyens. En France, au XIXe siècle, on a compris que l'instruction était un droit universel avec l'école gratuite et obligatoire. En 1945, on a compris que l'accès aux soins était un droit universel. On ne peut pas continuer à conditionner ce droit imprescriptible à une existence digne, c'est-à-dire se nourrir sainement, se loger en toute sécurité et confortablement, au droit à un emploi correctement rémunéré que la société, avec les mutations dans le monde du travail, n'est plus capable de garantir. En passant d'un système d'assistance à un système d'assurance, on donne les moyens à chacun et chacune d'affronter les défis à venir, tant écologiques que dans le monde du travail, et ainsi ne plus devoir manger que du malheur. Nadia va vous présenter les principaux objectifs de ce revenu universel d'existence.
Avant de vous quitter, on voudrait vous mettre en garde contre des dangers du nucléaire dont on ne parle pas assez souvent, à savoir les répercussions que le nucléaire peut avoir jusque dans le monde de l'emploi. Dit comme ça, ça peut paraître surprenant, mais n'empêche que ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on mesure un taux de radiation de plus en plus important aux acéliques. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard quand tu seras grand ? Je trouvais ça con comme question quand j'étais enfant. Je travaillerai 8 heures par jour, 5 jours par semaine. À ce régime, j'aurais pas le temps de faire ce que j'aime. Des bilans de compétences en stage de formation. Tu te reconnais plus, t'as le vocabulaire d'un patron. Y'en a 20 comme toi derrière pour prendre ce job qui a l'air chiant comme l'enfer et payé post-op. C'est parti, tu vas produire de la merde en tube et la refourguer à des pauvres gens avec un pot de pub. Ou dans un atelier devenir plus con qu'une machine, jusqu'au jour où en arrivant y'a même plus l'usine. Qu'on veut redonner goût au travail en France, alors faut trouver un goût sucré comme les vacances. De toute façon, nous on a déjà trop de trucs à faire. Chouette, utile et rigolo qui valent mieux qu'un salaire. On veut pas du travail,
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 on veut pas du travail, on veut pas du travail.
Tire au flanc, parasite et salaud. On fait ça pour le pays, l'idée nous vient d'en haut. Une entreprise monte en bourse quand elle licencie. Comme quoi ne pas bosser, c'est bon pour l'économie. Avec tout ce qu'on produit, sans parler de tout ce qu'on jette, pourquoi tout le monde n'a pas de quoi se remplir une assiette. Se trouver un toit même en ne bossant que le lundi. Et ceux qui veulent une télé, ils y retournent le mardi.
On espère qu'on va pouvoir compter sur vous. Pour ceux qui se font quotidiennement chier dans un boulot à la con, ça va pas être dur. Et pour ceux qui sont au chômage, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination, les gars.
Eh ben voilà, ils disent tout à l'avance, mais oui, c'était les Malpolis sur les ondes de Radio Campus 106,6. Et vous êtes toujours à l'écoute du programme Tous Essentiels, où on parle du revenu de base qui se présente à l'Assemblée nationale. Rien que ça.
On aurait dû inviter les Malpolis, finalement, tout est dit. Puis ça aurait mis un peu d'ambiance à l'Assemblée nationale. Juste après, Nadia va nous expliquer quelles sont les, enfin leur expliquer et nous par la même occasion quelles sont les attentes d'un revenu universel, mais tout est là.
Allez, écoutons ça de suite.
Bonjour, je me présente, Nadia Boilac, je suis membre du mouvement français pour le revenu de base depuis 2015 et présidente de l'association Revenu de base Montreuil dans le 93 depuis 2018. Je défends donc un revenu de base pour tous, dans universel, individuel, inconditionnel, versé de la naissance à la mort. Et à Montreuil, on a décidé, avec donc au sein de notre groupe, de défendre en fait, de militer pour un revenu de base étudiant. La cause estudiantine nous a beaucoup touchés, surtout pendant la période du Covid. Et parmi les membres de l'association, nous avons des étudiants. Et de fait, nous avons très vite été sensibilisés par cette cause. Donc voilà, c'est le revenu de base que je défends aussi.
Quels sont les principaux objectifs à la fois sociaux et économiques d'un revenu universel d'existence ? Avant tout, il doit nous protéger. Par son montant, il doit immuniser à toutes les étapes de la vie. En fait, de fait, le montant du revenu de base ne doit pas être aligné au montant du RSA, mais il doit être plus important. Immunité contre la pauvreté, les accidents de la vie et libérer l'individu de la charité publique et privée, c'est-à-dire les associations, les fondations, les banques alimentaires. Mais surtout, en fait, le revenu de base doit être émancipateur. Cela peut paraître un peu provocateur quand on sait que de nombreuses personnes rencontrent des difficultés à boucler les fins de mois et ils sont nombreux chaque jour à sauter un repas. Nous avons 10 millions de pauvres qui gagnent moins de 60% du salaire médian en France. Et pourtant, le revenu de base ne doit pas être seulement instauré pour répondre aux problèmes de pauvreté. Il doit permettre, en fait, d'aller vers la civilisation du temps libéré, cher à André Gors, avec un meilleur partage des emplois, avec la réduction du temps de travail, et par ailleurs, on aboutirait certainement à une réduction drastique du chômage. Le revenu de base doit être un véritable salaire socialisé, dissocié de l'emploi individuel. Il doit permettre de répondre aux mutations en cours dans le monde du travail, comme la robotisation, l'intelligence artificielle, et il doit répondre aussi aux défis environnementaux. Avec un revenu de base, lorsqu'on est au SMIC, on doit pouvoir gagner plus en travaillant moins et mieux. Pourquoi est-il nécessaire d'instaurer un revenu de base ? Pour valoriser les emplois socialement vitaux et peu rémunérés, comme le métier du care, de l'accompagnement, la petite paysannerie, les commerces de proximité, les agents de la propreté, on a pu l'observer pendant la pandémie que les métiers les plus vitaux sont souvent les plus mal payés. Il doit offrir la possibilité à chacun de faire les choix les plus pertinents pour la collectivité, tant dans son rôle de producteur que celui de consommateur. Quand la vie n'est plus soumise au chantage de l'emploi et de l'argent, le revenu universel permet de se libérer d'une économie productiviste, nocive pour l'environnement, pour aller vers une économie plus qualitative. Le revenu de base apportera une sécurité financière indépendante de l'emploi, permettant ainsi aux individus de prendre des décisions basées sur d'autres valeurs que la simple nécessité de gagner de l'argent. Pourquoi il sert d'instaurer un revenu de base ? Il permet de dire non. Non à des conditions dégradantes, que ce soit dans la sphère familiale, là je parle aussi des violences conjugales, ou dans le monde de l'entreprise. Il permet aussi de se libérer des béquilles médicamenteuses, des addictions. Quand on n'a plus d'épée de Damoclès sur la tête, on dort mieux. On fête, on vit tout simplement mieux. Et concernant ce point, les expérimentations sont unanimes. Le revenu de base renforcerait l'ensemble de la protection sociale. Il faut un peu l'imaginer comme une nouvelle branche de la sécurité sociale, en agissant en fait comme une mesure complémentaire qui garantit un niveau minimum de revenus à tous les individus, indépendamment de leur situation économique ou de leur participation au marché du travail. En somme, le revenu de base est un filet de sécurité universel. Une arme de destruction massive, la seule arme à utiliser pour réduire la précarité. Les enjeux. Quel enjeu revêt la mise en place d'un revenu universel d'existence, spécifiquement en France ? Il simplifie les systèmes de protection sociale. En remplaçant ou en complétant certains programmes sociaux existants, le revenu de base peut simplifier les systèmes de protection sociale. Il réduit la complexité administrative associée à la gestion de multiples programmes de prestations sociales et il contribue à rendre l'accès aux avantages sociaux plus transparent et plus équitable pour tous. C'est un levier d'inclusion sociale. Le revenu de base favorise l'inclusion sociale en garantissant à tous les individus un revenu de subsistance indépendamment de leur situation personnelle ou de leurs circonstances de vie. Cela contribue à réduire les inégalités sociales et économiques en offrant à chacun une base minimale pour participer pleinement à la société. En combinant tous ces aspects, il renforce l'ensemble de la protection sociale en offrant une protection financière de base, comme je disais tout à l'heure, en simplifiant les systèmes d'aide sociale et en favorisant l'inclusion sociale, ce qui contribue à promouvoir le bien-être économique et social de la population dans son ensemble. Le revenu de base rend la société beaucoup plus résiliente aux crises. Par exemple, avec cette allocation universelle, il aurait permis à tout un chacun d'affronter la crise des gilets jaunes. Il n'aurait pas eu besoin d'un chèque essence. Le Covid, sans faire fonctionner la planche à billets. Les agriculteurs, avec un revenu décent, n'auraient pas eu à descendre dans la rue. Les jeunes, et en particulier les étudiants, n'auraient pas à faire la queue pour de la nourriture ou à sacrifier leur temps d'études pour un travail de survie. Les femmes et les mères solos n'auraient pas jonglé entre leur rôle de mère et un travail alimentaire. En fait, il reconnaît la dignité intrinsèque de chaque individu en garantissant un revenu de subsistance sans condition ni stigmatisation. Sans condition ni stigmatisation. Le revenu de base est une réponse pragmatique à un problème systémique. Le revenu de base est une solution pratique pour résoudre des problèmes qui touchent tout le système. Au lieu d'avoir de nombreux programmes sociaux compliqués, le revenu de base propose juste un paiement régulier à tout le monde. C'est une façon simple et efficace de faire face à des problèmes complexes.
Dans quelles conditions considérez-vous comme réalisable et souhaitable la mise en place d'une forme de revenu universel d'existence en France ? Beaucoup d'organisations d'entraide et de solidarité réclament un revenu minimum garanti pour les plus démunis. C'est une première étape urgente, nécessaire, et nous sommes avec le collectif RMG partie prenante de ce combat. Mais il faut être plus ambitieux, car un système qui n'aide que les pauvres creuse encore l'écart qui les sépare du reste de la société. Une politique pour les pauvres est une pauvre politique, observe Richard Titmuss, théoricien de l'État social britannique. En outre, deux sociologues suédois ont montré que les pays où les programmes gouvernementaux étaient les plus universels étaient ceux qui réduisaient le mieux la pauvreté. Les gens sont plus ouverts à la solidarité quand elle leur profite personnellement. Alors, comment faire ? Eh bien, il faut partir du constat paradoxal suivant. Premièrement, qu'il existe 10 millions de pauvres sous assistance de l'État, et dans le même temps, l'ensemble du corps social est très riche. 1 600 milliards de revenus primaires et plus de 14 700 milliards de patrimoine net privé, rapport entre revenus et patrimoine inégalé depuis la veille de la Première Guerre mondiale. Deuxièmement, qu'aujourd'hui, dans la création de la valeur, la machine, les logiciels, l'intelligence artificielle prennent le dessus sur le travail humain, mais la solidarité par les cotisations est toujours totalement assise sur les salaires. Alors, à partir de ce constat, on peut faire la proposition suivante. D'une part, on l'a indiqué, en substituant à la redistribution actuelle faite d'aides sociales organisées par l'État, une redistribution horizontale, universelle, propre au corps social, redistribution transformatrice. D'autre part, en répartissant mieux la solidarité entre travail et capital dans le partage de la valeur ajoutée. Les machines qui remplacent de plus en plus les humains doivent aussi contribuer par une cotisation à l'existence des salariés qu'elles remplacent, comme le préconisait déjà Sismondi au début du 19e siècle et Benoît Hamon avec la taxe robot. Le tout pour financer une allocation d'existence inconditionnelle et individuelle fondée sur le principe de solidarité universelle. Chacun contribue en fonction de ses moyens, en revenus et en patrimoine, à la satisfaction des besoins élémentaires de l'ensemble de la communauté. À revenu universel, contribution universelle. Ce revenu dissocié de l'emploi, socialisé, véritable salaire de vie, doit être d'un montant suffisant pour éradiquer tout au long de la vie la pauvreté en se substituant à toutes les aides non contributives, conditionnées et ainsi en finir avec l'épreuve du guichet physique ou électronique. Ce n'est donc plus le montant de l'aide qui est négociable, mais son financement. Le premier de chaque mois, on reçoit inconditionnellement de quoi vivre dignement. À la fin du mois, on contribue au financement de cette allocation vitale. Son financement peut être assuré, premièrement, par une contribution progressive sur les revenus d'activité et du patrimoine qui remplacerait l'impôt sur le revenu. Deuxièmement, par une contribution progressive sur le patrimoine net privé qui se substituerait à l'IFI. Troisièmement, par une cotisation sur le capital productif, l'excédent brut d'exploitation, qui remplace la cotisation des allocations familiales sur le salaire. Le tout administré par une branche de la sécurité sociale. Une fois mise en place cette nouvelle branche de la sécurité sociale qui remplacerait l'actuelle CAF et qui distribuerait ce revenu universel d'existence, il est possible de réorganiser les autres branches, retraite, assurance maladie, allocation familiale, autour de ce pilier central pour aller vers une véritable sécurité sociale universelle dans l'esprit des fondateurs de 1945. Ainsi, en dissociant la fonction redistributive assurée par le revenu de base et la fonction rétributive d'une pension de retraite fruit de la carrière professionnelle, il permet d'unifier le système actuel autour d'un seul régime et ainsi de diminuer le taux des cotisations. Ainsi, il n'en coûterait rien à l'État qui serait soulagé de cette mission redistributive. Les entreprises ne seraient pas plus mises à contribution. Seul l'ensemble du corps social serait sollicité suivant ce principe de solidarité universelle qui ne demanderait qu'un effort supplémentaire sans aide confiscatoire à 5% des foyers fiscaux les plus dotés en revenus comme en patrimoine. Je terminerai par une citation de Philippe Van Parijs, philosophe, fondateur du Basic Income Earth Network. Je le cite, « Il s'agit de construire un état social qui mise intelligemment sur l'épanouissement du capital humain plutôt que sur l'astreinte d'un emploi non choisi. »
Je me suis réveillé avec une impression étrange, comme si j'étais dans la quatrième dimension, comme si autour de moi rien n'avait changé, et pourtant tout semblait différent. Une jeune fille, jolie, gracieuse, au café s'assied à la table d'à côté. Au bout d'un moment, on se met à parler de tout, de rien, de la société. Mais sous son air glamour charmant, se cachait en fait Patrick devait être géant. Elle me dit, d'un ton de mégère, le vrai problème en France, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires. Je tremble, j'ai les mains moites, le monde entier est de droite. Je regarde à gauche, à droite, y'a quelque chose qui déboîte. Je me calme et me dis, soit, faut que je trouve la pose adéquate. Ok, je viens faire moite, moite, mais là tout est trop de droite. Devant une fac en grève, des étudiants applaudissent lorsqu'intervient la police. Sur toutes les faces, c'est fou, j'ai l'impression de voir partout les mêmes Ray-Ban en verre fumé de Michel Sardou. Je tremble, j'ai les mains moites, le monde entier est de droite. Je regarde à gauche, à droite, y'a quelque chose qui déboîte. Je me calme et me dis, soit, faut que je trouve la pose adéquate. Ok, je viens faire moite, moite, mais là tout est trop de droite. Un jeune dreadlocks qui a l'air cool, juste du genre de tension, pas stressé pour un sou. Dans le train s'assoit juste à côté de moi, qui volubile commence à lui causer, pendant que son yinche vient se coucher sur mes pieds. On parle de tout, de musique, de reggae, bref, l'échange est calme, tranquille, serein, jusqu'à ce qu'une famille de Rome monte dans le train. Car sous ses cheveux en laine et son air ahuri, se cachait en fait Michel Alliot-Marie. Il me dit, pour éviter de faire un appel d'air, il faut multiplier les reconduites à la frontière. Je tremble, j'ai les mains moites, le monde entier est de droite. Je regarde à gauche, à droite, y'a quelque chose qui déboîte. Je me calme et me dis, soit, je trouve la pose adéquate. Ok, je viens faire moite, moite, mais là tout est trop de droite. Une prof me dit, faut en revenir aux fondamentaux, chanter la Marseillaise et saluer le drapeau. Un médecin me confie, les pauvres, je n'en peux plus. Je sors mon flingue quand j'entends le mot CMU. Je tremble, j'ai les mains moites, le monde entier est de droite. Je regarde à gauche, à droite, y'a quelque chose qui déboîte. Je me calme et me dis, soit, faut que je trouve la pose adéquate. Ok, je viens faire moite, moite, mais là tout est trop de droite. Je me suis réveillé avec une impression étrange, comme si j'étais dans la quatrième dimension, comme si autour de moi rien n'avait changé, et pourtant tout semblait différent. Dans le couloir, j'entends une voix qui crie « Silvio, Nicolas, allez embrasser votre papa !» Et cette même voix qui dit
« Chérie, ce matin, je prends l'audi !»
Je me lève et vers la salle de bain, je me dirige, et ben, quel est ce pige, quel est ce parfum, quelle est cette montre à mon poignet. Je me tourne vers le miroir un peu inquiet, car sous mes traits de chanteur vaguement gaucho se dissimule en fait Roselyne Bachelot. Je m'entends dire, si on veut voir le petit arriver, faudrait peut-être l'inscrire cette année dans le privé. Je m'amuse, je m'éclate, je m'assume enfin de droite, complètement décomplexé, je peux me laisser aller. Je tremble, j'ai les mains moites, le monde entier est de droite. Je regarde à gauche, à droite, y'a quelque chose qui déboîte. Je me calme et me dis, soit, je trouve la pose adéquate. Ok, je viens faire moite, moite, mais là tout est trop de droite. Je tremble, j'ai les mains moites, le monde entier est de droite. Je regarde à gauche, à droite, y'a quelque chose qui déboîte. Je me calme et me dis, soit, je trouve la pose adéquate. Ok, je viens faire moite, moite, mais là tout est trop de droite. Je tremble, j'ai les mains moites, même la gauche est de droite. Je regarde à gauche, à droite, y'a quelque chose qui déboîte. Je me calme et me dis, soit, je trouve la pose adéquate. Ok, je viens faire moite, moite, mais là tout est trop de droite.
Et ben voilà, c'était Renaud Bistan sur les ondes de Radio Campus, un chanteur qu'on entend quand même assez souvent dans cette émission, il me semble.
Oui, mais pas celle-là.
C'est... Ah oui, mais c'est peut-être parce que c'est moi qui choisis.
Heureusement, oh là, si c'était moi.
Bon, allez, on continue ce Tous Essentiels consacré à l'audition à l'Assemblée nationale.
Merci, Guy. Donc je reprends la parole pour conclure sur les deux dernières questions que vous nous avez posées. La première, comment l'existence d'un revenu universel peut-elle influencer le rapport au travail de la population? Cette relation s'en trouve-t-elle radicalement changée? Et la dernière, quel bilan et quels enseignements peut-on tirer des expériences et de mise en œuvre de Revenu Universel dans le monde? Je répondrai à ces deux questions qui sont intimement liées. D'abord, un revenu de base avec la valeur donnée au travail est renforcée parce qu'elle est plus choisie. Une fois que les gens sont sécurisés sur les plans financiers, matériels et donc psychologiques, les gens goûtent la liberté, prennent plus leurs responsabilités, recherchent du sens et s'engagent d'autant plus que c'est en accord avec leurs valeurs, leur rythme, etc. Ils gagnent ainsi en confiance en eux, osent prendre plus de risques, s'adaptent mieux au changement. Ils montrent aussi plus de confiance dans les autres et en vivant de l'égalité et de la justice. Il y a donc moins de rivalité et de conflit, ce qui nourrit la paix intérieure et sociale. Et en même temps, ils remettent plus en question leurs conditions de travail, entendant ici d'emploi, et revendiquent des évolutions liées aux facteurs des risques psychosociaux. La motivation au travail est donc beaucoup plus qualitative que quantitative, donc plus liée au sens qu'à la rémunération. Gerd Werner l'illustre bien, c'est un entrepreneur allemand qui est parti de rien jusqu'à monter une entreprise de plus de 2000 filiales. Il défendait le revenu de base, comme le centre des jeunes dirigeants en France d'ailleurs, au nom de l'économie qui consiste à, dit-il, rationaliser les coûts de production et donc libérer l'humain du travail. Il évoquait ainsi le nouveau défi des managers, je cite, « diriger des collaborateurs avec une autre motivation que celle de l'argent ». Pour appuyer cette analyse, deux sources d'indices convergent, les expérimentations partout dans le monde et les interpellations des gens en France. Donc les expérimentations, justement, qui portaient sur ce fameux lien avec le travail, ce rapport au travail, est-ce que les gens travailleraient plus ou pas du tout, etc. La plupart des expérimentations voulaient vérifier, justement, que les gens continuent à travailler. Des États-Unis à la Finlande, en passant par l'Inde ou l'Afrique, seules deux catégories de la population baissent leur temps de travail, les étudiants et les jeunes mamans, en moyenne entre 10 et 30% de leur temps. On comprend aisément pourquoi. Tous les autres continuent et même travaillent plus. En Namibie, par exemple, en 18 mois d'expérimentation seulement, les micro-entreprises ont multiplié par 3 la masse monétaire d'un village de 1000 habitants, augmenté leurs revenus de 29% et baissé le chômage d'un quart. En Inde, les relations de travail se sont améliorées, l'épargne a triplé et les familles ont payé leurs dettes, comme en Alaska et en Allemagne d'ailleurs. Certains publics semblent plus en bénéficier que d'autres. Les territoires ruraux d'abord, surtout s'ils utilisent comme à Terra, dans le Lot-et-Garonne, une monnaie locale pour revitaliser la production et l'économie d'un bassin de vie, ou comme en Corée, sur toute une région. Deuxième catégorie qui en bénéficie particulièrement, ce sont les jeunes. Que ce soit en Alaska, au Kenya ou en Ouganda, ils gagnent environ 60% de chances d'être embauchés. Et enfin, troisième catégorie, les femmes, qui s'émancipent tant dans la sphère personnelle que professionnelle, comme en Inde, par exemple, où elles se sont plus impliquées dans la décision des villages ou syndicalement jusqu'à négocier une augmentation de salaire. On voit aussi qu'un revenu de base facilite l'accès et rallonge les études, surtout des filles, par exemple avec une assiduité scolaire multipliée par 3, etc. On peut, aller voir aussi les témoignages. Donc, quand on interpelle les gens, je le fais depuis plus de 10 ans, soit par un sondage, soit notamment la braderie de Lille en septembre dernier. On a attiré un public très varié, de tous âges et de toutes conditions sociales et culturelles. Donc, sur 500 personnes qu'on a interpellées comme ça, avec cette fameuse question, imaginez si vous receviez chaque mois suffisamment pour vivre, ce soit versé automatiquement sur votre compte, est-ce que vous iriez encore travailler? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Donc sur 500 personnes, seules 5 arrêteraient de travailler, soit 1%. Les autres veulent se sentir utiles, mériter leur salaire, appartenir à un collectif et créer des liens sociaux, s'épanouir et donner un sens à leur vie. Beaucoup avouent qu'ils travailleraient moins, conséquence directe de ce qu'ils ont vécu souvent pendant la crise sanitaire. Besoin de respecter son rythme, d'équilibrer la vie professionnelle et la vie perso, accord avec leurs valeurs, notamment en termes d'écologie. Certains veulent même travailler moins pour être plus efficaces ou pour s'investir plus dans du bénévolat. D'autres en profiteraient pour lancer leur entreprise ou développer des activités non rentables comme le sport et les arts, par exemple. En interrogeant plus spécifiquement des publics particuliers, on découvre que les métiers du care, les agriculteurs, les fonctionnaires, travaillent surtout pour servir l'intérêt collectif. Aujourd'hui, s'ils sortent de leur vocation, c'est parce qu'ils ressentent de plus en plus de difficultés à garder un niveau de vie correct. Les gilets jaunes interrogés seraient soulagés d'avoir un socle de sécurité et moins de charge mentale, mais pareil, ils continueraient à travailler. Les personnes précarisées rencontrées avec ATD Carmonde réclament d'abord un emploi, par dignité. Dans un deuxième temps seulement, ils acceptent un revenu de base parce qu'il est donné à tout le monde, ce qui les sort d'une sorte de discrimination positive qui en fait est vécue comme une charité déshonorante. Les adolescents interrogés ne sont que 2% envisagés de ne pas travailler. Et les sortants de grandes écoles qui refusent des postes très bien rémunérés dans de grandes entreprises pour trouver du sens dans leur emploi, finalement travaillent plus dans des activités plus précaires. On est donc bien loin d'une société d'oisiveté complètement désorganisée. Pour appuyer ça, je citerai un sondage allemand qui a été réalisé en 2008 avec cette même question. Et il en ressort que 60% des interrogés disent qu'ils continueraient à travailler comme avant. Pour 30%, ils travailleraient moins. Et pour les 10% restants, c'est « je commence par dormir ». Et en fait, ce sondage a été refait en Suisse en 2016 à l'occasion d'une votation. Et ce 10% de « je commence par dormir » tombe à 2%, sans doute parce qu'ils ont eu le temps de se projeter sur l'après-repos. Donc je propose deux pistes d'avantages, humains et sociétaux. Le premier est au niveau individuel et des risques psychosociaux. En 2017, un rapport de l'INRS alertait sur la montée de l'épuisement professionnel lié au bouleversement économique, aux nouvelles méthodes de travail et de management dues à la recherche constante de compétitivité. L'estimation de 100 000 salariés concernés est montée à 2,5 millions en mars 2022. On peut facilement imaginer que les bullshit jobs ciblés par David Graeber seront délaissés au profit d'emplois plus utiles et respectueux des humains comme de la nature. Rappelons qu'en 2021, le site association.gouv est estimé à 1,5 million d'équivalents temps plein le bénévolat en association, taux en augmentation chaque année de 4,5%. Deux tiers des heures travaillées seraient bénévoles en France, incluant le travail domestique et éducatif. Le revenu de base peut donc être ce trait d'union entre des périodes d'emploi, de formation et d'activités non rémunérées. Si on reprend les effets donc dans le cadre des expérimentations internationales en dehors du travail, il y a un résumé très simple que je peux faire très rapidement, c'est il n'existe aujourd'hui aucun revenu de base qui remplisse tous les critères. De même, les expérimentations ont été conduites dans des conditions très diverses. En durée, on passe de 18 mois à 48 ans. Au niveau de l'assiette, c'est-à-dire les personnes concernées, il a été testé sur quelques personnes ou des centaines de milliers. Avec un montant suffisant pour vivre ou pas, et avec diverses périodicités. Il peut être versé en une seule fois, tous les jours ou chaque année. Un constat général ressort néanmoins, le revenu de base n'a que des effets bénéfiques, confirmés au fil des expérimentations d'un continent à l'autre. Premier effet attendu, lutter contre la pauvreté et la précarité. Avec le revenu de base, les personnes se nourrissent mieux, peuvent se loger et se projeter dans l'avenir. Leur mode de consommation évolue, moins d'alcool et de drogue, mais plus d'investissements sur le long terme, à travers les enfants surtout, leur santé, leur éducation, mais aussi par l'amélioration de l'habitat, l'achat d'outils de travail et le suivi de formation. On le voit sur des SDF à Londres, comme chez des jeunes mères aux États-Unis ou dans des villages en Afrique. On le voit aussi en France, à Grande-Synthe, pour les bénéficiaires du CCAS ou à Lyon pour des jeunes. En Alaska, avec un revenu de base versé depuis 48 ans, la pauvreté a diminué de 20% alors que le montant n'est même pas suffisant pour vivre. Grâce au sentiment de sécurité, on note moins de stress et une meilleure santé, surtout pour les enfants. Au Canada, une expérimentation de 5 ans sur pas moins de 450 000 habitants a montré une diminution de la fréquentation hospitalière de 8,5% liée à une baisse des accidents de travail et sur la voie publique, due notamment à l'alcool, mais aussi moins de violences domestiques et de troubles mentaux. Le dernier effet global à tester, c'est que le revenu de base renforce la paix et la démocratie. Aux États-Unis, chez les Cherokee qui reçoivent des versements semestriels depuis 40 ans, même s'ils sont insuffisants pour vivre, la délinquance et la criminalité ont chuté alors que le nombre de votants a augmenté, surtout chez les jeunes. Partout, les bénéficiaires se sont plus impliqués dans la vie de leur quartier, de leur pays. Enfin, la relocalisation de l'économie, des choix de production et de consommation redonne la possibilité de créer des emplois et des richesses là où l'on vit. Donc fini les exodes subis. Et de pouvoir agir pour la transition écologique de son propre territoire. En conclusion, et en réponse à tous ceux qui auraient peur d'instaurer un revenu de base, les gens, entre guillemets, font de, entre guillemets, bons choix avec cette nouvelle capacitation pour eux, leurs proches et l'intérêt général. Les gains financiers pour la société sont aussi très importants. Un, en termes de baisse des dépenses, de santé, de sécurité, des allocations, etc. Et deux, en termes d'augmentation des investissements par rapport au niveau d'instruction, des créations de richesses, la paix sociale et l'engagement démocratique. Je conclue notre intervention. On reste à votre disponibilité pour une étude plus approfondie du sujet et pour tout complément d'information. Nous pouvons mettre à votre disposition les ressources documentaires, nos expertises. Cette année, par exemple, nos projets en cours sont un rapport sur la mise en œuvre d'un revenu de base en un quinquennat et l'organisation d'un colloque, les états généreux du revenu de base, les 10 et 11 novembre, où vous êtes bien sûr conviés. Je conclurai sur... une interview que j'ai faite d'un fonctionnaire mardi lors d'une manifestation pour défendre les services publics et qui me partageait que les services publics, en fait, c'est un patrimoine commun pour faire société et que bah, finalement, après réflexion, le revenu de base, bah, ça serait pareil, mais en mieux. Merci de votre écoute.
Eh bien voilà, et donc on vient de finir le tour de nos interventions. Tu disais que tu aimais beaucoup la dernière intervenante.
Oui, je la trouve sympathique.
Elle est claire, hein, bah oui.
Oui, oui, oui. Et puis on sent qu'elle est passionnée, qu'elle connaît bien son sujet. J'adore m'inviter moi-même. Il faudrait que je fasse ça plus souvent. Je vais remplir des émissions avec tous les moi-même qu'il y a en moi-même. Vous n'aurez pas fini, mes pauvres. Bon.
Eh bien, du coup, t'en as pensé quoi de cette audition à l'Assemblée nationale ?
Tu veux dire, à part le stress et toutes les choses un peu désagréables que mon corps m'a dit après ?
Les 15 contrôles d'identité avant de rentrer.
Aussi. Non, j'ai trouvé ça très intéressant. La seule limite, c'est que, donc, on était conviés 2 heures. Mais il y avait 2 autres invités. Et en fait, on n'a pas vraiment vraiment répondre à leurs questions ou avoir leur propre accusé réception, justement, de ce qu'on disait, puisque la fin s'est déroulée avec une discussion entre les invités. Donc, Baptiste Milondo et Antonella Corsani, on s'entend plutôt très bien, on a la même vision du revenu de base, et donc c'était très enrichissant. On a évoqué notamment les autres monnaies, puisqu'on a fait plusieurs épisodes sur les monnaies locales, la monnaie nationale complémentaire, même la monnaie libre, ou même la monnaie hélicoptère par l'Europe. Donc c'était aussi enrichissant de partager avec eux. Et en même temps, c'est vrai que ce qui nous a manqué, c'est justement qu'est-ce que ceux qui nous écoutaient ont retenu, qu'est-ce qui les a le plus intéressés. Donc ça, je vais être obligée de faire un teasing pour un épisode suivant, sans doute, parce que ça sera sans doute pour une deuxième audition, quand on sera réinvité, où ils auront pu affiner un peu plus leur questionnement et leurs réflexions. Et voilà, là, on aura leur retour et on pourra discuter avec eux. Donc sinon, en tout cas pour moi personnellement, c'est un grand espoir, parce que ça veut dire que d'abord l'idée n'est pas morte, déjà, ça c'est quand même une bonne nouvelle au niveau politique en tout cas, qu'elle est reprise, qu'ils prennent le temps aussi, donc ça veut dire qu'ils bâclent le pas à ça pour nous faire une proposition de loi qui sera de toute façon retoquée parce que le gouvernement n'en veut pas, c'est assez clair, tout ce qui est progressiste en ce moment est balayé et on va vers l'extrême droite, voilà, je vais pas vous faire un cours, je pense qu'on est tous au fait de tout ce qui se passe, mais voilà, on sait qu'en souterrain il y a quand même des personnes qui continuent à s'y intéresser de façon officielle. C'est quand même une commission qui vient de la commission des affaires sociales, donc on se situe dans notre premier sujet. Soulager déjà les personnes que la société met au banc et en plus humilie et en plus culpabilise, etc. Donc on va vraiment, en tout cas à travers cette initiative, à l'encontre de tout ce qui est fait en termes de lois économiques, démocratiques, etc. Donc ça laisse un espoir, mais comme si un peu il y en a qui préparent la suite Alors, la suite à quoi, on ne sait pas encore. Hein, on ne sait pas jusqu'où ça ira, tout ça. Mais voilà. Et le revenu de base fait partie des leviers démocratiques, économiques, sociaux et même écologiques qui sont gardés en vue et qui, petit à petit, continuent à faire leur chemin. Donc, ça me demande beaucoup de patience, que je n'ai pas forcément à revendre. Mais voilà, ça donne... Ouais, ça donne de l'espoir et effectivement un temps plus long que mon rêve, mais il y a quand même quelque chose, quoi.
Oui, donc on est quand même sur le chemin de dans 10 ans, on l'a.
Bah, j'espère, part. Parce que moi je vous rappelle que j'ai un gamin de 13 ans à qui je l'ai promis, donc il faudrait quand même pas trop tarder. Hein, s'il a 50 ans ou 65 ans, ce sera jamais trop tard, mais quand même, j'aimerais bien le voir avant de mourir, hein, s'il vous plaise. Donc je sais pas, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que ça te fait, cette bonne nouvelle que...
Moi j'ai toujours un peu peur que ce soit une espèce de... Enfin, parce que ça arrive assez régulièrement, hein, que les députés invitent des forces progressives pour leur dire à la fin, oui, bon, écoutez, on vous a entendu, mais finalement, on a décidé de faire comme on veut, et voilà. Donc c'est toujours un peu cette méfiance-là
que j'ai. On vous rappellera, mais...
Oui. D'ailleurs, est-ce que tu as une idée de à quel moment ils vont vous rappeler?
Non.
D'accord.
Non, mais je sais, parce qu'évidemment, on connaît un certain nombre de personnes expertes sur le sujet, divers et variés, philosophie, économie, sociologie, enfin, ben, tout, qu'ils sont encore en train de faire les auditions, à raison d'une journée par semaine, voilà. Donc, toutes les personnes qu'on connaît sont invitées petit à petit, que ce soit les autres associations. Je pense alors d'autres associations qu'on connaît qui sont directement mobilisées sur l'idée du revenu de base ou sur une version. Donc, il y a Génération.S, évidemment, pour les partis. Il y a les Verts. Il y a aussi l'AIR, A-I-R-E, qui porte une version. Terra, dont on a déjà parlé, etc. Et d'autres experts sur des sujets plus connexes, comme d'autres associations comme ATD, par exemple. Ils sont en train vraiment de faire un brossage très très large. Ils y passent du temps et de l'énergie. Donc, au pire, si effectivement c'est une fin de non-recevoir à la fin, il y aura quand même un rapport et des traces de ce qui a été dit. Voilà, quelqu'un pourrait peut-être s'en saisir un jour. Enfin, tu vois, je m'accroche un peu aux branches, mais en tout cas, au MFRB, on va suivre ça de près. Et s'il faut, on se réincrustera par la petite porte. On ne va pas les lâcher. Et pour ceux que ça intéresse, bah du coup, je vous invite à regarder sur notre site, revenudebase.info, pour avoir les suites, à nous encourager dans nos projets, parce que comme je le disais à la fin de mon intervention, on a deux gros projets cette année qui sont donc un rapport pour instaurer un revenu de base en un quinquennat. On ne sait jamais si quelqu'un avait envie, on fait du coup humain, voilà. Et surtout, les états généreux du revenu de base qui auront lieu les 9 et 10 novembre à Givors, juste à côté de Lyon. Donc venez nous rejoindre, ça sera festif, ça sera très diversifié. On va rencontrer, on va réunir des experts et aussi des citoyens qui sont experts de leur propre vie. C'est quand même important. On a tous notre petite pierre à ramener. Donc n'hésitez pas, mais comme tout le monde, adhérez, partagez, likez, renseignez-vous, parlez-en au repas de famille. De toute façon, c'est ça ou la guerre. Donc, mieux vaut ça. Hein. Donc, il y a plein d'endroits où ce sujet peut être très, très intéressant.
Et puis, bon, vu qu'on enregistre l'émission un peu en avance, on n'a pas eu les résultats des votes encore. Hein. Donc, je tiens à préciser nos auditeurs que, bon, voilà, ça aurait pu être une émission d'actualité, mais non.
Qui sait?
Eh bien, on se retrouve le mois prochain. Je crois que tu as déjà un invité pour le mois prochain.
Oui. On va recevoir Bernard Héron. Figure-toi qu'il défend le revenu de base depuis plus de 50 ans.
Mais ça existait déjà il y a 50 ans.
Je te jure. Et en plus, il continue à y croire. C'est ça qui est fort. Tu vois, et ça m'inspire.
Bon. Eh bien, donc, Virginie, rendez-vous le mois prochain. Et à toutes et à tous, je vous donne rendez-vous tous les vendredis de 17 à 18h pour Cover en goguette. Et en attendant, bon, on se laisse avec le générique de début, qui est aussi le générique de fin, qui s'appelle Je suis essentiel. C'est Jérémy Siro qui avait fait cette parodie pendant le confinement, au moment où on fermait les trucs et non essentiels. Voilà. Hein, pour replacer dans le contexte également. Voilà. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un très bon mois, une très bonne semaine et à très bientôt.
Et vive nous, vive les essentiels.
Allez, allez. Je suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis, je suis essentiel. Je suis essentiel.